Dessous, voilà la revendication des manifestants aujourd'hui en France, éternelle revendication qui court au fil des siècles. Fut un temps, on réclamait du pain, puis des augmentations de salaire, on manifestait contre la vie chère. Aujourd'hui, le mot à la mode est celui de pouvoir d'achat. Et les syndicats n'y sont pour rien, ce sont les entreprises de la grande distribution qui l'ont inventé, ce mot. Car le pouvoir d'achat, ce ne sont pas forcément les salaires qui montent, ce sont aussi les prix qui baissent. Logique libérale s'il en est, et formidable jeu de mots, car dans cette formule, la consommation devient un pouvoir, un signe de puissance. T-shirts, jeans, télé, voitures, conserves et légumes, achetez, bonnes gens, le bonheur est dans les choses et le pouvoir entre vos mains. Avec ces mots-là, les pauvres ne sont plus pauvres, ils ont juste un faible pouvoir d'achat, petit, tout petit, juste de quoi se nourrir, mais pas de quoi bomber le torse. Allez, encore un effort, ça passera, nous dit-on. Eh bien non, ça ne passe pas, passe plus. Les prix flambent et l'exaspération avec, manifestations monstres et marches œcuméniques, même les policiers ont rejoint le cortège comme un air de révolte. Sarkozy pris au piège de son propre slogan, tous ensemble, tout est possible, chantent les manifestants pour l'augmentation du pouvoir d'achat, mais aussi et surtout le pouvoir de vivre et pourquoi pas de rêver.
Culture vive, Pascal Paradis.
Ça s'installe là.
C'est votre loge alors?
Oui.
Sobre.
Ah bah oui. Toujours dans le provisoire.
Toujours dans le provisoire. Nomade un peu.
Ah oui. Ah bah oui.
Bon, est-ce qu'on commence l'interview?
Bien sûr.
Donc on commence l'interview?
Absolument.
Bon, parce que j'ai l'impression que ça commence un peu comme dans le spectacle, ça commence avant de commencer avec vous.
Ah oui, c'est bien possible, c'est vrai, parce que commencer, ne pas commencer, c'est la grande question. Alors avant de se jeter à l'eau, on a inventé un petit préambule où on ne sait pas trop si ça débute, si ça commencera plus tard, ou si on a envie que ça commence.
Si on est au théâtre, ou si c'est la vie,
voilà.
Ou si c'est Jean Rochefort, ou le comédien Rochefort.
Mais voilà, etc. voilà. Le mystère.
Bon, on va commencer. Bonjour Jean Rochefort.
Bonjour.
Ça c'est un bonjour de radio. Hein,
ah très bien.
Voilà. Donc vous êtes à l'affiche du Théâtre de la Madeleine avec, entre autres, un spectacle de votre cru, qui est un collage assez détonnant de textes et d'auteurs que vous affectionnez, dont Primo Levi, Fernand Reynaud, Henri Miller ou Molière, entre autres, puisque c'est le titre du spectacle. Mis bout à bout, est-ce que cela fait un autoportrait?
Eh bien, en tout cas, ça découvre un petit peu. C'est un peu impudique, c'est vrai, parce que à travers ces auteurs, j'essaie de faire parvenir et de faire partager mes goûts de ces gens qui m'ont influencé, qui m'ont formé, qui m'ont créé, puisque il faut bien dire que ma génération doit tout à la radio et à la littérature. Et seulement à ça, et ça n'était pas si mal.
Mais est-ce que vous êtes fait par les textes?
Oui, beaucoup.
Oui.
Je suis un provincial. La province de mon enfance était un désert absolu. La littérature et la radio, j'insiste beaucoup, ont été les deux moteurs de l'ouverture de mes neurones.
Vous écoutiez quoi à la radio? Parce que vous insistez.
Nous écoutions beaucoup, ma mère et moi, les feuilletons qui avaient lieu en général vers 18h et les retransmissions théâtrales. Qui n'était pas en direct, non, je ne pense pas, mais on se mettait dans la pénombre, ma mère et moi, dans le noir même, et le souvenir extraordinaire d'entendre les pas des acteurs qui se déplaçaient sur la scène.
Et le désir d'être comédien est né là?
Je ne m'en suis pas rendu compte, mais je ne dis pas que l'heure des contes est venue, mais je pense que j'ai eu là des émotions intenses. Et je me souviens que je jouais au foot avec des copains sur la place de je ne sais plus quelle ville où nous habitions. Et ma mère sortait sur le perron de la maison et m'appelait « Jean, c'est l'heure de l'aiguille creuse !» Le feuilleton de 18h, et j'abandonnais mes copains pour aller écouter le 37e épisode de l'aiguille creuse.
Et vous lisiez donc après, ou avant, ou tout le temps?
Alors non, j'ai lu assez tard, parce que le début de ma culture était sur le, par le dessin animé. La bande dessinée, le dessin animé, je crois que les 12 ou 13 premières années de ma vie, j'ai vu un monde en caoutchouc où les immeubles tombaient sur les héros et les héros retrouvaient leur taille normale quand l'immeuble était soulevé. Et voilà comment je considérais que la vie pouvait être possible, c'est-à-dire dans la fiction la plus absolue.
Mais vous parlez pas beaucoup de bande dessinée dans le spectacle, entre autres. Vous parlez d'Henri Miller en disant qu'il a été l'auteur qui a accompagné toute votre vie. C'est pour faire chic et intello ou...
Ah non, alors là, vous avez tout à fait raison. C'est parce que je parle des 12 premières années de ma vie, mais après Miller, ça a été à 14 ans. Et c'était vraiment, à l'époque, à 14 ans, découvrir le diable. Le diable en bibliothèque.
Le sexe.
Le sexe, bien sûr. Tous les interdits qu'il y avait à l'époque étaient énormes. Et ça a été une découverte fulgurante. Et alors là, je dois dire que Miller a été un des premiers importants... j'ai été électrocuté littéralement par cette lecture, découverte de Miller.
Mais est-ce que vous avez, Jean Rochefort, des amours exclusives comme ça? Parce que dans le spectacle, entre autres, vous aimez à parler de Miller, mais aussi de Primo Levi, en évoquant les camps de concentration, les femmes tondues, mais aussi Fernand Reynaud ou Charles Trenet. Vous passez vraiment d'un registre à l'autre, d'un auteur à l'autre.
Alors c'est là, peut-être, que je me découvre le plus. J'ai une sorte d'exclusivité comportementale. Je suis un homme à l'éventail assez large, toute modestie gardée, et qui je n'ai pas de sectarisme culturel, je déteste cela, et je ne suis pas contre une certaine sottise, une vulgarité physiologico-hilarante, qui est le propre du Romanichel.
Donc vous êtes et léger et grave.
Je crois que je suis léger parce que grave. Parce que la légèreté sans gravité n'est pas très intéressant.
Dans le spectacle, vous dites que vous rêvez, ou vous rêviez, je ne sais pas si c'est au présent ou au passé, d'être un acteur drôlatique. Ça veut dire quoi?
Un acteur drôlatique, j'ai trouvé ça assez récemment. Acteur comique ne me convient pas. Acteur tragique ne me convenait pas non plus. Je trouve que drôlatique raconte bien un acteur qui est en lisière permanente, qui est toujours en lisière de la forêt, c'est-à-dire si le drame arrive, il va pencher vers le drôlatique, si le drôlatique arrive trop, il va pencher vers le dramatique. Il veut être toujours en lisière. Alors drôlatique, c'est-à-dire sporadiquement drôle.
Donc ça veut dire passer de Roland Barthes, par exemple, à l'imitation du chimpanzé.
Tout à fait.
Avec chose que vous faites très très bien.
Hein. Je vous en remercie, et il faut ajouter que c'est un chimpanzé avec touché de testicules.
De même que le lion est en plein coït quand vous l'imitez.
Absolument, le lion est en plein coït et le cri de la femelle du gibbon au crépuscule en Malaisie a été vécu par moi-même et tout ça est en direct.
Les auditeurs doivent se dire que vous êtes fou ou qu'on est fou et ne doivent plus rien comprendre.
Je crois qu'à notre époque, c'est peut-être le plus grand service qu'on puisse rendre à nos contemporains.
De ne plus comprendre.
De ne plus comprendre et de rester fou.
Jean Rochefort, le public vous connaît par le cinéma. Votre moustache est devenue un accessoire de l'imaginaire collectif, je trouve. Vous l'avez toujours eue, d'ailleurs ?
Non, elle est venue à 40 ans.
Ah oui, assez tard quand même.
Assez tard pour jouer justement Alceste du Misanthrope, parce que les fausses moustaches décollaient. Et j'avais un physique vertical qui m'interdisait par trop les relations sexuées avec les partenaires féminines dans la fiction, j'entends bien, le reste ne nous intéressera absolument pas, il faut bien le dire.
Enfin, pour les auditeurs, en tout cas.
Oui, pour les auditeurs, en tout cas, merci de l'avoir ajouté. Mais j'ai ajouté cette horizontalité dans ma verticalité, et je suis un peu... comme une ça a complètement changé ma morphologie. Sans moustache, j'avais l'air tellement hypocrite et lâche, ce que je suis en fait, que ça limitait mes rôles.
Donc c'est un masque en fait, vos moustaches.
Ah, mes moustaches sont un masque.
Donc on vous connaît au cinéma essentiellement, mais en même temps tout a commencé par le théâtre dans votre dans votre vie. Ça on l'oublie souvent, c'est la puissance du cinéma, je sais pas, ou la mémoire.
Non, c'est parce que j'ai abandonné très longtemps le théâtre, l'hégémonie des metteurs en scène culturello-tyranniques m'a fait disparaître et quitter le théâtre pendant 25 ans à peu près, et c'est pour ça. Mais effectivement, j'ai commencé par le théâtre. J'étais au conservatoire, ensuite j'ai fait beaucoup de théâtre, passionnant théâtre, surtout des auteurs anglo-saxons. Et grâce à Delphine Seyrig, j'ai changé d'emploi. Avant la moustache, Delphine m'a... Seyrig, qui était la princesse du théâtre, la reine, m'a choisi, je dois le dire, pour devenir son partenaire et dans des nouvelles de Tchekhov au théâtre Héberto, et ça a été pour moi un changement d'existence, puisque j'appartenais à une compagnie, qui s'appelait la compagnie Grenier-Husneau, qui était une compagnie comique d'avant-garde.
Si je parle de Delphine Seyrig, c'est parce que vous-même, dans votre spectacle, entre autres, vous en parlez, enfin, vous faites entendre sa voix.
Oui.
Parce que c'est vrai qu'elle vous a fait changer de répertoire, elle vous a fait découvrir Pinter,
absolument.
Prix Nobel de littérature aujourd'hui, mais
absolument.
Que personne ne jouait dans ces années-là, dans les années 60.
Absolument.
Vous étiez pratiquement le premier. Dans le spectacle, vous parlez aussi de Noiret, de Serrault, vous évoquez leur présence. C'était à la fois des partenaires et puis des complices.
Des partenaires, des complices, des hommes infiniment estimables, et puis des grands, grands talents, des hommes qui ont compté dans ma vie sur le plan et de l'amitié et de l'admiration que je leur portais.
Tous disparus, est-ce que ça fait de vous quelqu'un de nostalgique ?
Ça n'arrange pas les choses. Il est bien évident qu'on m'avait prévenu, on m'avait dit attention, il y aura une période difficile, ça sera la perte des amis. Perdre des amis, c'est vivre encore, mais c'est une génération qui commence à fondre dans la tasse.
Le téléphone sonne.
Oui, je suis navré, j'aurais dû l'éteindre. Ah ben non, c'est celui du preneur de son, le type absolument là.
Le type qui m'a acheté. Et lequel ? C'était à qui finalement ce téléphone ?
Oui, là, c'était le mien.
Bon, vous êtes peut-être pardonné.
Et alors, reprenez votre question pour l'air naturel.
Oui, quel est votre rapport à la nostalgie, Jean Rochefort ? Parce que j'ai l'impression que ce spectacle est empreint de nostalgie, d'entrée de jeu.
Oui, je crois que je suis biologiquement nostalgique. Et il faut dire, et j'en parle aussi dans mon spectacle, que la guerre et la libération de la France n'a pas fait de moi... un enthousiaste délirant. Je suis un pessimiste militant, sinon professionnel, et c'est vrai que je garde une inquiétude permanente sur le temps écoulé, sur les grandes interrogations par rapport à notre espèce. Qui sommes-nous? Que sommes-nous capables de faire ou de ne pas faire? Où irez-vous? Où irez-vous? Voilà mes grandes problématiques. C'est vrai que pour un acteur comique semblerait excessif, mais drôlatique, normal.
Quand vous citez en même temps Noiret, c'est pour faire une forme de petite leçon de théâtre, en fait.
Tout à fait.
Parce que vous racontez une anecdote le concernant, voilà, qui doit s'appliquer, j'imagine, à vous et à plein d'autres comédiens.
Oui, à ce phénomène absolument étrange qui m'arrive de constater de plus en plus, d'une anesthésie générale ou locale, où tout à coup, parce que le rideau s'ouvre, les douleurs disparaissent, les douleurs corporelles, les douleurs, même les douleurs psychiques, qui sont des douleurs corporelles, on joue. Tout à coup, le fait de jouer, le fait d'être bizarrement quelqu'un d'autre, il y a un phénomène d'anesthésie qui est très intéressant, et je raconte justement que mon ami Noiret, c'est Anouk Aimé qui m'a dit, quand il jouait, marchait très vite sur scène, et quand le rideau tombait, il avait un peu de mal à se relever.
Mais sur scène, il n'avait pas besoin de canne.
Peut-être un seul ou deux, à savoir de ne pas avoir plus entrepris. Je n'ai pas désiré, par manque de confiance en moi, être un meneur. Je n'ai pas souhaité entreprendre pour les autres et pour moi-même. J'ai longtemps désiré faire du cinéma comme réalisateur. Je viens seulement... Voilà, j'ai fait des moyens-métrages, j'ai fait des choses comme ça, et des courts-métrages plus jeunes, et là je viens enfin de terminer un film, enfin ça a duré très longtemps, avec Delphine Glaise, qui est une trentenaire de grand talent. Nous avons co-réalisé un film qui, j'espère, sortira en salle bientôt. Et ça, c'est une grande joie dans ma maturité de voir enfin un film auquel j'ai participé dès le départ, qui est un documentaire fiction, en fait, appelons-le comme ça.
Ne pas avoir joué le misanthrope n'est pas un regret, par exemple.
Si, voilà. Ah. Alors, il ne reste que celui-là.
Ça, vous en parlez dans le spectacle.
J'en parle dans le spectacle, voilà. Ça, c'est... Je me suis aperçu, encore une fois, toute modestie gardée, que... Je ne suis pas loin de cet homme. J'ai un sens de la rigueur, mais la rigueur d'Alceste qui s'effrite devant l'amour. Je sens ça tout près de moi.
Jean Rochefort, dans le spectacle, les derniers mots, vous qui citez tant d'auteurs, sont « Chaque jour est un miracle ».
Oui.
C'est de qui ?
De mon médecin. De mon médecin, un urologue pointu. Ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Donc vous l'appropriez?
Je lui en ai fait part, il aura une place gratuite.
Merci Jean Rochefort.
Je vous en prie.
Entre autres, votre spectacle, c'est donc au Théâtre de la Madeleine à Paris jusqu'au 7 janvier, et ça fait encore des représentations.
Oui. Hein.
Et pour les auditeurs d'RFI, eh bien, le journal, et on retrouve les chroniqueurs du service culture de RFI dans une dizaine de minutes.